VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 5h30 en temps universel, au micro Nanit Talani. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'actualité. On vous en dit plus dans les prochaines minutes. En attendant, voici les principaux titres de cette édition du jeudi 24 août 2023. Mort présumée d'Evgeny Prigogine, patron du groupe paramilitaire Wagner, et 9 autres personnes dans un crash d'avion au nord-ouest de Moscou. Le groupe des BRICS ouvre leurs portes aux potentiels nouveaux membres. Primaire républicaine américaine 2024, Trump absent au premier débat, ses rivaux s'écharpent. Au Gabon, élections sous haute tension, médias étrangers bloqués, journalistes locaux sous pression. Ce sera dans notre partie magazine. N'oubliez pas vos rendez-vous habituels avec les nouvelles économiques et le sport, avec notamment Wade Van Niekerk. De retour sur le devant de la scène 6 ans après son sacre, il vise le podium du 400 mètres aux mondiaux d'athlétisme. En attendant, le journal. Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, son adjoint et 8 autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé depuis mercredi au nord-ouest de Moscou. C'est ce qu'affirme l'agence russe du transport aérien. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Tôt ce jeudi, des personnes se recueillaient à Saint-Pétersbourg devant le siège de Wagner. Près de Koudjenkino, des policiers ont bouclé l'entrée de la zone du crash. L'agence russe du transport aérien a confirmé qu'Evgeny Prigogine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s'est écrasé dans la région des Sver. Toutes les personnes à bord sont décédées, a indiqué le ministère russe des situations d'urgence. Selon un responsable des services de secours cité par l'agence RIA Novosti, les corps de 8 personnes ont jusqu'à présent été retrouvés sur le site du crash. Pour sa part, l'agence TASS mentionne 7 corps récupérés. Des vidéos non authentifiées ont été diffusées, montrant des débris en feu dans un champ ou un appareil tombant du ciel. Se trouvant dans une région du sud-ouest de la Russie au moment des faits, le président Vladimir Poutine a salué devant la foule le dévouement et la loyauté des soldats russes en Ukraine, sans mentionner le crash. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhailo Podolyak, sous-entend que Prigogine a pu être éliminé par le Kremlin, estimant que Poutine ne pardonne à personne. Le président Joe Biden s'est dit pas surpris de la possible mort du patron de Wagner. L'opposante belarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a écrit que Prigogine était un meurtrier qui ne manquera à personne. Evgeny Prigogine a été à l'origine en juin d'une brève rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, mené par ses hommes. Vladimir Poutine l'avait qualifié de traître sans prononcer son nom. Il y a 2 jours, M. Prigogine était apparu dans une vidéo diffusée où il affirmait se trouver en Afrique.
Le 24 juin, au lendemain de la révolte de Wagner, Vladimir Poutine avait dénoncé la trahison d'Evgeny Prigogine. Puis, dans l'opacité totale, Prigogine a même été reçu au Kremlin. Il n'était plus réapparu en public jusqu'il y a 3 jours sur une vidéo où il disait être en Afrique. Le portrait du chef du groupe Wagner avec John Lindon.
Centrafrique, Mali, Libye, Syrie, le groupe Wagner, dont le Kremlin ne reconnaissait pas l'existence jusqu'à fin 2022, s'est fait un nom en 10 ans. Le conflit en Ukraine lui a offert l'occasion de sortir de l'ombre. En mai 2023, il revendique la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Cependant, les tensions se sont aggravées avec l'état-major du général Valéry Gerasimov et le ministre de la Défense Sergueï Shoigu. Il les accuse de priver son groupe de munitions et multiplie les sorties pour les insulter. En octobre, il installe en grande pompe à Saint-Pétersbourg, dans un immeuble de verre, le siège de la compagnie militaire privée Wagner. Natif comme Vladimir Poutine de cette ville, Prigogine, 62 ans, avait déjà passé 9 ans en prison à l'époque soviétique pour des délits de droit commun. À sa sortie en 1990, il monte une affaire de vente de hot dogs, puis un restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg. Après la cession de Poutine à la présidence en 2000, son groupe de restauration officie au Kremlin, ce qui lui vaut le surnom de cuisinier de Poutine et la réputation d'être devenu milliardaire grâce au contrat public. En 2018, alors que ce groupe, déjà remarqué en Ukraine, Syrie et Libye, est soupçonné de prendre pied en Afrique, trois journalistes russes enquêtant sur les affaires de Wagner sont tués en Centrafrique.
Au Gabon, près de 850 000 électeurs inscrits se préparent pour voter samedi de manière inédite. Le même jour pour la présidentielle, les législatives et les municipales. Pour la présidentielle, les Gabonais décideront de confier ou non un troisième mandat au président Ali Bongo Ondimba face à 13 autres candidats partis d'opposition, parmi lesquels plutôt Albert Ondo Ossa, que les principaux partis d'opposition ont choisi comme candidat consensuel. Ce professeur d'économie de 69 ans a tenu son premier grand meeting de candidats consensuels dimanche dernier. À 64 ans et au pouvoir depuis 14 ans, le chef de l'État, lui, mène tambour battant depuis plusieurs mois une tournée très médiatisée dans toutes les provinces du pays avec des moyens considérables. Ceux de l'État accusent l'opposition. La principale plateforme Alternance 2023 appelle à ignorer les législatives pour se concentrer sur la présidentielle, seul enjeu des élections. L'armée du Mozambique dit avoir tué deux hauts dirigeants rebelles dans la province septentrionale de Cabo Delgado en proie à une insurrection armée djihadiste. Le terroriste Abou Kital, qui occupait le poste de commandant adjoint des opérations pour le groupe terroriste Al-Sunna Wal-Jamaat, a été abattu, ont annoncé les forces de défense du Mozambique dans un communiqué. Les autorités égyptiennes ont transféré hier mercredi l'éditeur et militant politique Hicham Kassem dans une prison en attendant son procès pour diffamation et agression verbale, c'est ce qu'a déclaré son avocat à Reuters. Réuni en sommet à Johannesburg, le groupe des BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, se sont accordés hier, mercredi, sur le principe d'une expansion du bloc. Le choix des nouveaux membres doit encore être discuté. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que l'ensemble des membres du bloc soutenait pleinement l'idée d'un élargissement. Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, a confirmé qu'un document définissant les principes de l'expansion et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres a été adopté. La ministre n'a pas précisé si les noms des nouveaux entrants seront annoncés lors de ce sommet, indiquant simplement que les détails seront précisés avant la fin de la rencontre ce soir. Une quarantaine de pays ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt, dont Cuba, le Nigeria ou encore l'Iran. Selon les dirigeants de ce Club des Cinq, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe, cet engouement montre l'influence grandissante des BRICS sur la scène mondiale. Les États-Unis ont affirmé mardi ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux, assurant vouloir maintenir de solides relations avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont eu leur premier débat et ils ont évoqué de nombreuses questions la nuit dernière lors donc de ce débat de la campagne sans l'ancien président Donald Trump à Milwaukee dans le Wisconsin. Parmi les questions abordées figurent l'inflation, l'insécurité, l'avortement et aussi surtout Trump cerné par les enquêtes. Ce dernier a choisi de snober ce rendez-vous en raison, selon lui, de sa large avance dans les enquêtes d'opinion républicaine. Il a donné une interview à Fox News diffusée sur X à la même heure que le débat. Le républicain a assuré que sa priorité, s'il revenait à la Maison-Blanche, serait de fermer la frontière avec le Mexique pour réduire l'immigration. Il a aussi multiplié les attaques contre Joe Biden, qualifié de pire président de l'histoire des États-Unis. La défense aérienne russe a abattu 3 drones ukrainiens dans les régions de Bryansk et Kalouga, a affirmé ce jeudi la Russie, sans indiquer si ces attaques avaient fait des victimes ou des dégâts. Cette nuit, une tentative du régime de Kiev de mener des attaques de drones a été déjouée, a communiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Et puis, en Australie, une ancienne directrice d'une école juive ultra-orthodoxe a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir agressé sexuellement 2 de ses élèves. Malka Leffer avait été reconnue coupable en avril de 18 chefs d'accusation, dont le viol chez elle d'une élève et l'agression sexuelle de la sœur de celle-ci lors d'un voyage de classe. Elle a été acquittée de l'agression sexuelle d'une troisième sœur. Le juge Mark Gamble de Melbourne a qualifié son acte de crime insidieux ayant marqué les deux sœurs à vie. Voilà pour le journal. Maintenant, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Alors que les BRICS réunis à Johannesburg ont fixé des possibilités d'ouverture à de nouveaux membres, plusieurs pays africains sont intéressés. 23 pays ont déposé une demande d'adhésion, dont l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal. L'Égypte est déjà actionnaire de la nouvelle banque de développement des BRICS basée à Shanghai en Chine. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint plus de 156 milliards de dollars au cours des 7 premiers mois de 2023, une hausse de 7% par rapport à la même période l'an dernier selon des données de la douane chinoise. Les exportations du pays asiatique vers le continent ont augmenté de 20% à environ 98 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 58 milliards. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement va octroyer un prêt à la banque de microfinance égyptienne Refi de près de 6 millions d'euros. Cette facilité servira à financer des micro-entreprises dirigées par des jeunes entrepreneurs dans des régions reculées dans le cadre du programme Youth in Business de la BERD.
À présent, les sports, nous invitons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pour commencer, Mondio d'athlétisme, Wout Van Niekerk, attendu aujourd'hui à la finale du 400 mètres.
Oui, fauché en pleine gloire en 2017, quand on le voyait reprendre le flambeau à peine déposé par Usain Bolt de visage de l'athlétisme, le Sud-Africain redevient candidat au podium mondial du 400 mètres 6 ans plus tard à Budapest. C'est beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'auto-persuasion avant de finir par y arriver vraiment. Beaucoup de jours où vous vous levez sans en avoir envie, où vous avez du mal. Depuis Wout Van Niekerk avec le recul. Chez les femmes, la néerlandaise Femke Bol a l'opportunité sur 400 mètres haies d'effacer son malheureux début de mondiaux. Et puis, sa queue sur 100 mètres, l'américain Noah Lyles vise le doublé avec le 200 mètres, pas réussi depuis Usain Bolt en 2015. Ce jeudi, il doit accélérer pour passer les demi-finales. Sa compatriote Shakari Richardson, nouvelle reine du sprint, a fait forte impression avec le meilleur temps des séries hier, 22 secondes 16, avant les demi-finales qui se courent aujourd'hui.
En transfert, Islam Slimani signe à Coritiba.
L'attaquant international algérien est arrivé hier au Brésil où il a signé jusqu'au 31 décembre 2024 avec Coritiba. L'annonce est faite par son club. Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie, 42 réalisations en 94 matchs, a été acclamé par environ 700 supporters à son arrivée à l'aéroport de Curitiba dans le sud du Brésil. L'attaquant de 35 ans, 1m88, jouait pour Anderlecht la saison dernière. Il a marqué 9 buts en 16 matchs de championnat et d'Europa Conference League, mais il n'a pas renouvelé son contrat avec le club belge. Curitiba vient de subir 4 défaites consécutives en championnat du Brésil et traîne à l'avant-dernière place du classement.
Pour terminer, Yakuba, nouvelle finale pour Messi et l'Inter Miami en Coupe des États-Unis.
Lionel Messi, double passeur décisif, a sonné la révolte contre Cincinnati hier pour permettre à l'Inter Miami d'accéder en finale de la Coupe des États-Unis. Mené 2-0 à une vingtaine de minutes du terme, Miami a pu reposer sur le septuple ballon d'or. Messi a délivré 2 offrandes à Leonardo Campana, d'abord à la 68e minute sur coup franc, puis au bout du temps additionnel à la 97e en prolongation. Les deux équipes ont marqué, poussant le score à 3-0 et la rencontre au tir au but. La Pulga, premier tireur, n'a pas flanché et ses coéquipiers non plus. Miami l'a emporté par 5 tirs réussis contre 4. Les Floridiens auront l'occasion contre Houston ou Salt Lake City de remporter le deuxième titre de leur jeune histoire après la Ligue Cup samedi dernier. Ils ont tout gagné depuis l'arrivée de l'Argentin qui va jouer une deuxième finale de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour et on commence par l'Afrique du Sud pour parler des BRICS. Le sommet des puissances émergentes des BRICS est entré depuis hier mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud, dans le vif des discussions centrées sur l'expansion du bloc qui veut étendre son influence dans le monde. Voilà côté officiel, mais dans les rues, il y a aussi des manifestations, comme le rapporte Gabriel Porometo à Johannesburg.
Le 15e sommet des BRICS s'ouvre avec des manifestations à quelques kilomètres du centre des congrès de Sandton, le quartier le plus riche d'Afrique, situé dans la ville de Johannesburg. Quelques Ukrainiens s'opposent à la présence de la délégation russe.
Nous sommes ici pour élever notre voix et livrer un message aux leaders des BRICS et à tous les invités qui sont au sommet. Nous souhaitons que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine et arrête toute activité militaire dans notre pays.
À quelques mètres, des Éthiopiens sont venus eux aussi pour appeler les BRICS à sanctionner les crimes de guerre ayant lieu en Éthiopie.
Nous demandons aux BRICS d'arrêter le génocide de Amara.
Près du congrès, les routes sont fermées, les personnes contrôlées. Des centaines de policiers entourent le palais des congrès, abritant les dirigeants des BRICS. Des chefs d'État d'autres pays sont présents également au sommet, espérant intégrer le groupe, comme les dirigeants du Sénégal, de Cuba, d'Iran, d'Indonésie, du Nigeria et d'Arabie Saoudite. Certains d'eux sont accusés de limiter les libertés de leur pays.
Nous ne devons pas nous réjouir de cela. La plupart des dirigeants qui veulent rejoindre les BRICS, ce sont des oppresseurs de leur propre peuple. Ils ne respectent pas les droits humains les plus basiques. Ils peuvent être économiquement importants, mais nous ne devrions rien célébrer en tant qu'Africains, car nous sommes en train d'entrer dans une période vraiment compliquée pour les Africains, qui est surtout causée par les Russes.
Parmi les discussions centrales des prochains jours, l'expansion des BRICS, des investissements sur le continent africain et le développement d'une monnaie commune pour contrer l'hégémonie du dollar. Une thématique qui tient à cœur à Vladimir Poutine, présent virtuellement au sommet à cause de son mandat d'arrêt international.
L'objectif irréversible de la dédollarisation de nos relations économiques est en train d'obtenir un élan important et des efforts sont effectués pour développer des mécanismes efficaces pour des accords économiques mutuels et de contrôle monétaire. Résultat de cela, l'utilisation du dollar dans nos échanges d'import-export au sein des BRICS est en train de décliner.
Le sommet s'achève demain avec des débats concernant les modalités d'adhésion pour le pays voulant rejoindre les BRICS dans l'avenir. En 2024, ce sera au tour de la Russie d'accueillir ce sommet. Gabriel Porometo pour VOA Afrique, Johannesburg.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a validé lundi un projet de nouvelle constitution approuvé le 30 juillet par référendum. La nouvelle loi supprime la limite du nombre de mandats présidentiels et le prolonge de 5 à 7 ans. L'opposition accuse le président Faustin Archange Touadéra de vouloir rester président à vie. Pour le pouvoir, cette constitution inaugure une nouvelle ère. Mouamadou Oufa s'est entretenu avec Aristide Brian Reboas, ministre centrafricain de la jeunesse et des sports et ancien chef des services des renseignements.
Rappelons que la RCA est un pays qui a été marqué par de multiples implosions d'instabilité politique. Il y a eu des violences, des coups d'État, des conflits, etc. Tout ça là explique notre sous-développement. Mais il y a toujours eu deux causes, causes endogènes et exogènes. Mais nous savons très bien que c'est beaucoup plus la motivation sociale. Et donc, effectivement, cette constitution garantit effectivement la protection sociale dans sa quasi-totalité. Et c'est aussi, va aussi à la conquête de notre indépendance économique.
Ce qui change avec la nouvelle constitution, l'un des principaux changements, c'est le fait que le président Faustin Archange Touadéra peut désormais être candidat autant de fois qu'il le souhaite. Est-ce que ce n'était pas cela l'objectif? Est-ce que le président Touadéra sera candidat? Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il soit candidat?
Non, mais le problème, c'est que vous me posez la question pour le référendum. Aujourd'hui, on est en train de savourer la victoire. Peut-être le jour viendra où on va poser ce genre de questions. Mais aujourd'hui, on est tellement imbibé par la joie et on ne peut pas se permettre de poser encore un autre problème, poser ce genre de questions. Cela viendra. Et je pense que tout citoyen centrafricain devrait être mis devant ses responsabilités, y compris le président. Est-ce qu'il remplit les conditions d'éligibilité? Oui ou non? Est-ce que lui-même, il veut être candidat? Oui ou non? Est-ce que son parti va encore l'investir président ou candidat? Oui ou non? Donc ça, c'est tous des questions. Et moi, je ne suis pas dans sa formation politique. Je suis leader d'un autre parti politique. Je ne peux pas me permettre de répondre à la place des autres. Mais le moment viendra où la tête froide, toutes ces questions pourront être posées, toutes ces pistes pourront être explorées. Est-ce qu'il est président? Est-ce que sur le plan économique, sécuritaire? Est-ce qu'il a posé des actes qui méritent que les Centrafricains lui passent encore à nouveau la confiance? Est-ce que lui, comparativement aux autres qui l'accusent de tout, de l'opposition, est-ce que qui est mieux que qui? Qui a plus de résultats que qui? Toutes ces questions, les Centrafricains, normalement, en peuple mature, se poseront le moment venu.
Est-ce qu'une nouvelle candidature du président Touadéra n'ouvre pas la voie à une instabilité plus prononcée?
La République centrafricaine, le potentiel chrysogène aujourd'hui est presque néant. Pourquoi? Parce que tout ce que il y avait le pilotage à vue. Le peuple était loin de tout ce qui se passait. Le peuple n'est pas concerné, etc. Aujourd'hui, on a donné le pouvoir au peuple. Et voilà pourquoi je vous dis que cette constitution est un véritable paratonnerre. Parce que avant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, un président peut prendre un décret et limoger de faire ceci, et d'attribuer tel permis de telle à telle entreprise, et qui en son tour peut, voilà. Et donc, à chaque fois, quand les gens estiment que le président n'est plus utile, on trouve un idiot utile du système quelque part, qu'on pousse, on leur demande de venir faire le coup d'état et après il suffit de prendre encore sa plume et de changer la ceinture par un autre décret. Maintenant, c'est impossible.
Aristide Brian Reboas, ministre centrafricain de la jeunesse et des sports et ancien chef des services des renseignements.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Les Gabonais sont appelés aux urnes samedi pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Le pays s'est barricadé contre les médias étrangers. Sur le plan local, les journalistes dits indépendants sont aussi confrontés à l'accès aux sources d'information en cette période électorale. Le reportage dans quelques salles de rédaction avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Au siège de l'unique quotidien du pays, difficile de se tourner les pouces. Pour la couverture des élections du 26 août, la rédaction du journal L'Union est au taquet. Une équipe de veille filtre les informations brutes venant des correspondants et des envoyés spéciaux sur le terrain. L'objectif affiché, éviter le piège des fake news tout au long d'un processus électoral qui va au-delà de l'annonce des résultats. L'Injoël Lindembe, directeur de la rédaction de l'Union.
Nous prenons assez de recul pour publier. Nous exploitons l'information parce qu'une rumeur peut toujours apporter une information au final. Nous avons le temps de vérifier.
À situation exceptionnelle. Dispositif exceptionnel. Dans quelques jours, le Gabon a rendez-vous avec son histoire. Le pays organise simultanément trois scrutins. Une présidentielle, les législatives et les municipales. Un tournant inédit pour lequel la question d'accès équitable des candidats aux médias publics reste sur la table. Claudette Ehoro, directrice des actualités de Radio Gabon.
Le seul problème que nous avons, parce que parfois certains candidats ne déclinent pas leur agenda, leur programme.
Ouvrir les élections de cette année au Gabon n'est cependant pas donné à tous les médias, qu'ils soient étrangers ou locaux de droit privé. Ils dénoncent des entraves à la liberté de la presse. L'organisation patronale des médias gabonais s'en plaint, mais sans succès. Télésphore Obama Gomo, président de l'OPAM.
Il y a comme une volonté, soit de dissimuler une vérité, il y a également à être amené à vouloir contrôler de bout en bout toute la chaîne d'information pour ne pas effectivement que tout ce qui pourrait constituer des dérapages ou des ratés ne puisse être servi à l'opinion publique.
Aux restrictions qui plombent l'exercice du métier s'ajoute aussi la précarité des professionnels des médias. Les plus vulnérables pourraient céder facilement à la corruption. Une triste réalité que déplore René-Paul Souzat, producteur télé.
Le journaliste ne peut plus servir véritablement l'information d'une manière évidente. C'est-à-dire, donc il y a l'influence, celui qui met de l'argent, il va donner une information qui est biaisée.
Et c'est de ce constat que naît le désamour entre la presse gabonaise et son public. Fulbert Metogué est un citoyen qui a mal à ses médias.
Aujourd'hui, pour être informé sur le Gabon, on est obligé de courir aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'y met. Le citoyen est obligé lui-même de faire le filtre.
L'impartialité du journaliste gabonais dans le traitement de l'information sera encore mise à rude épreuve. Avant, pendant et après le scrutin. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Le Cameroun perd 3 400 milliards de francs CFA par an sur son PIB dans les produits d'importation. Une situation qui maintient la balance commerciale déficitaire, alors que le pays ambitionne d'atteindre le statut de pays émergent en 2035. Depuis Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le volume élevé des importations de produits de grande consommation constitue un obstacle majeur à la politique d'import-substitution du Cameroun. Simon-François Yonga Bakalak, coordinateur national du Centre des réseaux des filières de croissance.
Nous ne pouvons pas faire la substitution si nous continuons à polluer notre marché par des produits importés. Nous devons protéger le marché qui est le marché local. Le CRFC, par des études statistiques et économiques et les simulations d'autofinancement, montrent par ce chemin que nous pouvons, à partir du marché, financer toute la chaîne de valeur jusqu'au niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation.
Secteurs dits prioritaires ont été identifiés par le Centre des réseaux des filières de croissance. Il s'agit des filières coton textile confection, bovine, laitière, aquaculture, bois, cacao, café, palmier à huile, manioc et oignon. Dina Youwe Florian, promoteur de la filière manioc.
Nous avons besoin d'une de transformation de manioc. Nous cherchons la subvention du CFC pour avoir une usine de transformation du manioc, une usine de transformation du tapioca.
Asmaoua Maidadi est une promotrice de la filière tomate.
Notre usine va apporter une plus-value dans la région du moment où elle va employer plus de 100 emplois directs et 200 emplois indirects. À la fin, ça peut être quelque chose qui peut avoir plus de 1000 emplois.
La facture des importations des poissons surgelés au Cameroun s'élève à 136 milliards de francs CFA en 2022. Le financement d'une production industrielle locale peut satisfaire la consommation intérieure estimée à 500 000 tonnes par an. Émile Mvogo, promoteur de la filière poisson.
Il est question pour nous d'avoir un appui pour quitter de la fabrication de l'aliment de façon artisanale à une fabrication industrielle parce que c'est l'aliment qui est la composante qui pèse à 70% dans la production de poisson.
À l'issue d'une concertation organisée par le ministère de l'économie avec le secteur privé, les institutions bancaires locales, les promoteurs d'entreprises, les premières mesures ont été prises. Simon-François Yonga Bakalak, coordonnateur national du Centre des réseaux des filières de croissance.
Notre première action avec nos partenaires, nous avons fait des labos et nous allons faire des champs semenciers. Après les champs semenciers, nous allons passer au centre de production, toujours avec nos partenaires et l'accompagnement de l'État. Et nous allons passer maintenant à l'implantation des usines.
Le Cameroun espère passer la balance commerciale à moins 3% en 2030 contre 8% du PIB il y a 4 ans, selon l'Institut national de la statistique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
C'est ici que prend fin cette session du Monde aujourd'hui qui a été réalisée avec la contribution de toute la rédaction au micro Nanit Talani, à la production Fatouma Alimassi Kalala, à la console Jonah Cornings. Merci à vous d'avoir suivi ces informations. Pour ne rien manquer de l'actualité, nous vous invitons à rester connectés sur notre site internet voaafrique.com. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube pour plus d'informations 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.